explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu.
Sur la liste des pays qui fascinent, intriguent, déboussolent le plus les Occidentaux, le Japon figure en bonne place. La romancière Muriel Barbery s'est prise de passion pour ce pays avant même d'y avoir mis les pieds. Son intérêt pour la culture japonaise n'a pas échappé aux millions de lecteurs de son deuxième roman, L'élégance du hérisson. C'est d'ailleurs juste après avoir écrit ce livre que notre écrivaine nippophile s'est rendue pour la première fois, en 2006, au pays du soleil levant. Suite à ce premier voyage, résolument sous le charme, elle a vécu pendant 2 ans à Kyoto, ville dans laquelle se déroule l'histoire de son tout dernier roman, Une rose seule, publié chez Actes Sud. Une errance pleine de sensations, d'émotions et de rencontres qui nous a donné envie à notre tour de partir à la découverte du Japon, de Kyoto, de ses temples zen, de ses jardins de pierre et de mousse et de ses cerisiers en fleurs, avec pour guide Muriel Barbery. Et en fin d'émission, le passionné de nature François Lasserre nous emmènera sur la piste d'espèces animales ou végétales qui ont fait un long voyage avant de s'installer chez nous, comme le coquelicot, le lapin de Garenne, le faisan ou encore plus récemment, le frelon asiatique. Voilà pour le programme de cette émission, préparé par Claire Tesser et réalisé par Hélène Kouyoumdjian, avec l'aide d'Anne-Sophie Ladonne. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Kyoto, effectivement, est une ville très très mystérieuse. Elle est mystérieuse pour nous, mais elle est mystérieuse pour les Japonais. Elle est mystérieuse pour les gens d'Osaka, qui sont pourtant à 40 km d'ici. Elle est mystérieuse encore plus pour les gens de Tokyo. L'architecture est différente, c'est une ville qui est tracée au cordeau. Et puis, c'est à la fois une ville très vivante, mais le monde nocturne de Kyoto nous est totalement inaccessible, mais il est aussi totalement inaccessible à la moitié de la population de Kyoto. C'est un monde de petits espaces, de petits bars, privés de 4-5 personnes. Pour y rentrer, il faut être patient, il faut des années, il faut être introduit par quelqu'un qui vous introduit dans le lieu. Et voilà, donc on vit un petit peu, on se balade dans ces rues avec cette espèce de mystère permanent. On voit ces petites portes minuscules. Et puis, on sait qu'on n'y pénétrera probablement jamais.
La voix de Pierre Fournier en 2004. Il dirigeait à ce moment-là la villa Kuyojama, un établissement artistique français à Kyoto. Bonjour Muriel Barbery.
Bonjour.
Kyoto, c'est une ville dans laquelle vous avez vécu pendant 2 ans. Vous êtes d'accord avec cette idée que Kyoto est une ville mystérieuse, y compris pour les Japonais ?
J'imagine, et pour moi, ça reste un mystère total, même après avoir écrit un roman entier sur Kyoto, le mystère demeure intact. Oui. Ouais.
Décrivez-nous cette ville si mystérieuse.
Alors, d'abord, il faut savoir qu'on n'atterrit pas à Kyoto. Hein. Il n'y a pas d'aéroport à Kyoto. Donc, on atterrit à l'aéroport international du Kansai, à Osaka. Et ensuite, on prend soit le train, soit une navette qui suit donc la côte, puis rentre dans la plaine et met à peu près 1h30 à rallier le centre de Kyoto. Et cette route est probablement une des plus laides au monde. C'est une série de bâtiments de béton, sans arbres, sans vie apparente. Et puis, on arrive à Kyoto, et là déjà tout change. Même si le centre de la ville est lui aussi, le centre moderne est lui aussi assez laid, hein, bardé de fils électriques et d'enseignes au néon. Il est déjà attachant, mais bien sûr ensuite, il faut aller ailleurs dans Kyoto pour saisir le charme de cette ville.
Le charme et la beauté à laquelle vous êtes particulièrement sensible. C'est amusant de commencer par ce contraste, par la laideur qu'il faut savoir dépasser pour arriver au cœur des choses et à la beauté des choses. Vous, Muriel Barbery, vous avez aimé le Japon avant même de vous y rendre. Et on pouvait se rendre compte de cet amour pour le Japon en lisant votre deuxième roman, L'élégance du hérisson. C'est suite à L'élégance du hérisson que vous êtes enfin aller vers le Japon.
Alors, en fait, j'y suis allée juste un peu avant la sortie du livre. J'avais demandé à mon éditeur, qui s'enquérait de la valoir que je souhaitais, que je voulais de quoi aller passer les vacances de Pâques à Kyoto.
Ouais, alors, racontez-nous cette découverte.
Alors, ça a été un choc au début, comme je vous l'ai dit. Mais une fois arrivée dans la ville, je me souviens encore du premier jardin que j'ai visité, des premiers jardins, puisque ce sont ceux du pavillon d'argent, le premier temple où je sois allée, Et là, le vacillement a été immédiat et total. Le sentiment d'entrer dans un autre monde, d'être au cœur d'une réalité incompréhensible, bouleversante. Le sentiment d'être en terre étrangère, d'être dans un territoire qui ne serait jamais le mien, mais d'en tomber amoureuse comme on peut tomber amoureuse d'un homme étranger. Et d'avoir envie que la relation se poursuive longtemps.
Alors il y a un auteur que vous avez lu, je crois, Muriel Barberi, un écrivain voyageur qui a séjourné au Japon et qui a écrit notamment Chroniques japonaises.
Ah, Nicolas Bouvier.
C'est Nicolas Bouvier, bien sûr. Voici ce qu'il disait en 1987 au sujet de ce pays et de certaines incompréhensions qu'il peut susciter chez les Occidentaux qui s'y rendent.
Ce qui se produit quand un étranger arrive au Japon, en général avec des prétentions tout à fait immodestes, ils veulent que les guides japonais leur livrent l'âme japonaise en 3 semaines. Il y a ces prétentions immodestes qu'il faut complètement éroder, mais d'ailleurs le Japon tape dur sur l'ego occidental, et ça ne fait pas de mal. On ressort d'une expérience japonaise toujours un peu allégée, amincie, mais je crois qu'il faut se rendre compte que toutes sortes de difficultés qu'on rencontre et qu'on nous croit à tort spécialement destinées sont des difficultés que les Japonais connaissent entre eux. La vie sociale japonaise n'est pas simple du tout. Et alors, à tout moment, et c'est une erreur que j'ai commise moi-même, je me suis dit, on me traite de la sorte parce que je suis étranger, c'est que je ne connaissais pas assez bien les structures, les exigences et l'étiquette de la société japonaise, qui est extrêmement rigoureuse. J'avais l'impression que certaines brimades m'étaient réservées parce que j'étais étranger. J'aurais été japonais, j'aurais été brimé encore plus fort. On me témoignait, en somme, plus d'indulgence que je n'en méritais. Alors il faut apprendre un peu ce jeu de cache-cache qui n'est pas simple, et une fois qu'on en a compris les rudiments, eh bien, on se meut avec beaucoup plus d'aisance dans cette société, aux innombrables chicanes.
Nicolas Bouvier, en 1987, les chicanes sont innombrables au Japon, Muriel Barberi.
Alors, j'ai une immense admiration pour Nicolas Bouvier, dont les textes sur le Japon en particulier, mais surtout ses voyages me portent depuis très longtemps dans cette langue à la fois si poétique et si précise, qui fait que, alors qu'il est fort modeste et qu'il dit qu'on ne peut pas saisir si facilement l'âme du Japon, je trouve qu'il en a donné à voir le plus beau et l'essentiel. Alors, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis allée au Japon dans des circonstances très privilégiées. J'étais résidente de la villa Kujoyama, je n'avais pas à travailler, c'était une résidence d'écriture. Bien sûr, je suis restée bien plus longtemps que cette résidence et je suis arrivée un peu avant, mais je faisais partie des privilégiés qui peuvent passer leur journée à découvrir la culture japonaise, à se promener dans Kyoto, à déambuler le long du chemin de la philosophie sans avoir à subir de chocs culturels forts.
Ça, c'est le cadeau de l'élégance du hérisson. Hein. C'est-à-dire, ça vous a donné cette aisance-là de pouvoir prendre 2 années sabbatiques pour découvrir ce pays qui vous avait fait tant rêver.
Mais en réalité, j'ai pris plus que 2 années sabbatiques, puisque je vide ma plume, ce qui est une chance folle et qui est très peu courant. Et en ce qui concerne les 2 années à Kyoto, j'y repense avec une nostalgie poignante, parce que je savais sur le moment que j'étais en train de vivre quelque chose d'exceptionnel et que j'avais cette chance folle engendrée par l'élégance du hérisson de pouvoir être là. Mais j'en ai une nostalgie très forte. Mmh. Je regrette qu'elle soit passée si vite.
Ouais. Nicolas Bouvier évoquait cette incompréhension parfois de la culture japonaise. C'est parce que justement la culture du Japon est si insaisissable pour nous que vous avez mis du temps avant d'écrire un roman dont l'histoire se passe entièrement au Japon et dans cette ville mystérieuse de Kyoto.
Alors l'insaisissable ne fait pas tellement peur aux romanciers. Ce qui m'inquiétait, c'était l'irrévérence. C'était face à tant de beauté, et avec le sentiment de sacré que j'avais en foulant les chemins de ces temples et jardins, j'avais vraiment peur de manquer de respect à la ville et de manquer de respect à son esprit sacré. Je ne pouvais pas m'affronter à cette difficulté-là. Ouais.
Finalement, vous vous y êtes affronté avec ce dernier roman, Une rose seule. Alors, c'est l'histoire de Rose, hein, cette femme malheureuse qui est dans un moment de sa vie où elle n'attend plus grand-chose. Elle reçoit cette invitation d'un notaire à venir découvrir la lettre et le testament de son père, qu'elle n'a jamais connu, un japonais, marchand d'art. Elle se rend donc à Kyoto. Et là, avant de prendre connaissance du testament, elle est invitée par l'ancien assistant de son père à une visite initiatique des temples et des jardins de la ville. C'est une errance dans laquelle vous nous emmenez. Qu'est-ce qui vous a autorisé à finalement l'écrire, ce roman?
Je ne sais pas, peut-être la maturité ou une certaine forme d'inconscience en vieillissant, mais plus probablement le fait que enfin l'expérience s'est métabolisée après tant d'années. Mais ce qui a débloqué les choses, c'est aussi que j'ai choisi de prendre un point de vue occidental sur la ville. Encore une fois, je n'ai aucune expertise sur le Japon, aucune érudition particulière. Je n'ai que mes impressions. Et le personnage de Rose me permettait d'avoir cette naïveté et cette candeur dans la restitution de mes premiers durables émerveillements.
Ouais, parce que le chemin qu'elle emprunte, c'est évidemment un chemin que vous avez vous-même emprunté.
Oui. Des centaines de fois, peut-être, j'ai parcouru les chemins que Rose parcourt pendant le roman. Et au début, je pensais qu'il n'y aurait que ça, une errance dans la ville. Ça devait être une espèce d'itinéraire flottant et un peu onirique. Mmh. Et puis, évidemment, ça se complique toujours quand on écrit, donc c'est devenu autre chose.
C'est devenu aussi une métamorphose, un parcours psychologique, comme souvent dans vos romans, quelqu'un qui renaît à la vie. Vous allez nous emmener à la découverte des temples et des jardins de Kyoto. Partagez avec nous votre passion pour la culture japonaise. Muriel Barbery nous emmène bivouaquer au pays du soleil levant cet après-midi sur France Inter. C'était Shintaro Sakamoto qui chantait « Don't know what's normal » sur France Inter.
Le temps d'un bivouac, Daniel Fievé.
Dans ce jardin, on peut voir les montagnes à l'horizon, la végétation qui rappelle les champs, ainsi qu'une rivière. L'une des spécificités du jardin est la cascade derrière nous. L'eau semble s'écouler directement depuis la montagne Higashi. C'est la représentation d'un paysage mélancolique évoquant les légendes japonaises. Hisen Savari est une technique traditionnelle utilisée dans la conception des jardins japonais. Le mot Hisen désigne la cascade et Savari, les branches d'érable qui la dissimulent. La cascade n'est pas entièrement visible, elle est masquée à certains endroits par des feuilles d'érable. Cela crée une sensation de profondeur.
Le paysagiste japonais Tomoki Kato dans le jardin zen Murin Han à Kyoto. Nous sommes donc arrivés dans l'un de ces jardins zen. Que parcourt votre héroïne Muriel Barbery, votre héroïne Rose de votre roman Une Rose Seule, publié chez Actes Sud. Et on entendait à l'instant toute la minutie, hein, cette cascade et la façon dont les feuilles de l'arbre la cachent partiellement. C'est très représentatif de la façon dont sont pensés ces jardins, Muriel Barbery.
Oui, je me souviens que la première fois que je suis allée, non pas dans les jardins du pavillon d'argent, mais dans ceux du Nanzenji, à l'arrivée, au devant de ces temples, il y a un grand carré d'arbres et de mousse, avec au centre un gigantesque portail en bois. Et je me souviens d'avoir vu des femmes en tenue de coton traditionnelle, avec un fichu sur la tête et des paniers d'osier, penchées sur les mousses, sans avoir compris ce qu'elles faisaient. En m'approchant, j'ai vu qu'elles avaient des espèces de pinces à épiler en bambou et qu'elles rectifiaient les défauts de la mousse de telle sorte qu'elles redeviennent le velours qui devait honorer la beauté de ces lieux. Donc oui, la minutie fait partie du projet japonais en général et des jardins en particulier. Dans les jardins du pavillon d'argent, je suis restée une fois une bonne demi-heure à regarder un jardinier ratisser le sable. De lents mouvements réguliers à commencer et recommencer de telle sorte que la surface du sable gris, en quoi sont sculptés la plupart des jardins zen, soit la plus épurée et parfaite possible.
Il y a aussi ce silence dont vous parlez. Vous parlez dans votre roman d'un silence horizontal. Vous écrivez ce silence planait sur les allées. Elle sentait, alors c'est votre héroïne Rose, elle sentait qu'elle le fendait à mi-ange, qu'il faisait une nappe d'ondes invisibles entre pierre et air.
Lorsque j'étais là-bas, je n'ai pas écrit. D'abord, j'étais encore sous le choc de l'élégance de Hérisson et je ne savais pas encore vers quoi j'allais me tourner. Et ensuite, je découvrais la ville avec un tel appétit qu'il n'y avait pas de place pour autre chose. Mais j'ai pris des notes tout de même. Et celle-ci a été prise dans les allées du Daitokuji. La note qui inspire ce paragraphe, elle date de 2009. Je me souviens avoir écrit à ce moment-là, avoir griffonné sur un coin de carnet que le silence me paraissait horizontal. Et c'est vrai qu'on a l'impression, dans ce complexe de temples zen tout à fait à part, où il y avait, à l'époque, assez peu de touristes et très peu de monde, j'avais l'impression d'entrer dans une espèce de bulle de silence, de celle qui se forme presque en rêve, et en même temps de le sentir physiquement, que mon corps fendait quelque chose de matériel et néanmoins invisible.
Et en décrivant une allée un peu plus loin, vous dites que c'était en réalité plus qu'une allée, un voyage, une voie vers la fin ou vers le commencement. D'où vient, selon vous, Muriel Barbery, cette puissance d'évocation de ces jardins d'une simplicité extrême ?
Si seulement je savais. Je crois qu'il y a autant d'appréhension de ces jardins que d'individus. Je suis allée à Kyoto avec une amie chère, la chorégraphe américaine Carole Armitage, un jour. Elle y trouvait toujours des figures. Les pierres du Ryōan-ji étaient des planètes perdues dans l'immensité du vide et une métaphore, bien sûr, de l'existence humaine. Moi, je n'ai pas ce rapport figuratif aux jardins. J'ai l'impression qu'ils sont des pures formes qui suggère sans figure ni contenu compréhensible une forme d'intuition de l'existence. Et c'est peut-être pour ça que j'ai mis tant de temps à m'affronter à la tâche de les décrire, parce que ils dessinent quelque chose de l'âme qui n'est pas possible d'expliquer, mais qui se comprend avec force lorsqu'on y est. Et c'est pourquoi l'héroïne du roman se métamorphose peu à peu à leur contact. Oui.
Qu'est-ce que vous ressentez de la spiritualité de ces lieux ?
Alors, le parcours dans Kyoto est un parcours esthétique, bien sûr, mais aussi spirituel. Vous avez raison. Je ne suis pas une grande spécialiste ni du bouddhisme, ni du shintoïsme. Mais je peux vous dire l'expérience que j'ai faite, et que j'attribue d'ailleurs à Rose, que j'ai faite Sur la colline de Shinyodo, qui se trouvait à côté de chez moi à l'époque, où se trouve un grand temple. Et un soir, je suis allée de l'autre côté de la colline en traversant le temple désert et plongée dans l'obscurité, hors quelques lanternes. Et je me suis retournée sans arrêt parce que j'avais l'impression qu'il y avait des présences derrière moi. Je suis parfaitement athée et rationaliste, comme toute bonne cartésienne qui se respecte. Mais ce jour-là, j'ai le sentiment de la présence palpable d'esprit, au singulier ou au pluriel, qui très clairement naît de la configuration propre de ces lieux, jaillit des arbres, des pierres, de l'agencement architectural, des pavés inégaux, du chemin qui mène jusqu'aux marches du temple. Je ne peux pas le dire, mais c'est palpable.
Ces jardins sont la mélancolie transformée en joie, la douleur transformée en plaisir. Ça, c'est ce que dit l'un de vos personnages. Ça revient à plusieurs reprises dans votre ouvrage, le rapport des Japonais au malheur.
Alors, je ne peux en dire que le peu que j'en ai perçu, encore une fois, sans certitude, mais... comme le disait Pierre Fournier au début de l'émission, la vie japonaise est dure. C'est dur d'être aussi nombreux sur une île aussi fragile et soumise à autant de cataclysmes. La vie japonaise par elle-même est dure parce qu'elle est extrêmement codifiée, rigide. Et je me demande si ce n'est pas pour cette raison qu'ils ont été capables de dessiner ces jardins qui sont de véritables œuvres d'art et qui atteignent un niveau de beauté suprême. Mais c'est la fonction de l'art et aussi de la littérature en général que de transformer les blessures en lumière, l'ombre en rédemption et de faire en sorte que tous les fardeaux de la vie, dont les Japonais savent beaucoup, puissent devenir beauté.
Allons prendre le thé dans l'un de ces jardins zen.
Il y a ici une salle nommée Tai-an, réservée à la cérémonie du thé. Pour y accéder, il faut suivre ce chemin que l'on emprunte afin d'apaiser progressivement son cœur et de trouver une harmonie avant la cérémonie du thé. En avançant sur ce chemin, pierre après pierre, et en profitant de chaque feuille d'arbre, on peut alors libérer son esprit. Arrivé au bout du chemin, on lave ses mains afin d'être plus apaisé et on entre dans la salle de thé. C'est dans cet état d'esprit qu'on emprunte le chemin pour libérer son cœur.
Le moine zen Shodo Maeda, à quel point, Muriel Barbery, la cérémonie du thé est-elle importante dans la culture japonaise ?
Alors, il n'y a pas de cérémonie du thé dans une rose seule, parce que j'ai en fait assisté au Japon à très très peu d'entre elles. Je connaissais de la cérémonie du thé ce que j'en avais lu dans le livre du thé de Kakuzo Kakura. Et lorsque je suis arrivée à Kyoto, j'ai été invitée à une cérémonie du thé dans une des écoles les plus célèbres qui forment à cet art, à cette voie du thé. Et je n'ai pas du tout aimé le formalisme et l'atmosphère qui régnait. Ça m'a paru très très loin de ce que j'avais lu, de l'humilité, du caractère modeste des cérémonies du thé du temps de Senno Rikyu. Donc je m'y suis finalement assez peu intéressée. J'ai en revanche assidûment fréquenté les salons de thé, les maisons de thé de la ville, où il n'y a pas de cérémonie du thé, mais du très très bon thé.
Dans l'un de ces salons de thé, on vous sert un thé moussant, moussu, on le sert à Rose, hein, ce thé, bien sûr, à votre personnage, mais on sent qu'il y a du vécu derrière tout ça. Et au départ, elle le goûte avec un peu de réticence, et finalement, elle a une très très jolie façon de sentir, de déceler les saveurs imperceptibles de ce thé qui a presque pas de goût, mais du coup... le goût de tant de choses.
Oui, c'est le paradoxe d'une grande partie de la gastronomie japonaise qui est très peu épicée, qui est douce et qui pourtant a un pouvoir d'évocation et de plaisir intense. Mmh. Alors, la maison de thé où elle va, c'est Ippodo, qui je crois est la seule où on sert du koicha. Le koicha, c'est une réminiscence de la vraie cérémonie du thé, c'est beaucoup de poudre matcha, beaucoup de poudre de thé avec très peu d'eau, ce qui fait une pâte avec un goût, alors là, pour le coup, très très amer. Les saveurs ne sont pas très fortes, mais l'amertume, elle, est vraiment très très forte. Et la plupart des amis que j'ai emmenés dans chez Hippodo n'ont pas aimé la première partie de l'expérience. Et pourtant, à chaque fois, elle me donne envie de pleurer. Il y a quelque chose de très primitif et très civilisé en même temps, dans le goût de légumes, d'herbes, de feuillages, dans l'amertume très forte qui finit toujours en une sorte d'évanescence mystérieuse.
Suite de notre promenade au Japon avec la romancière Muriel Barbery, dans un instant, le temps d'un bivouac sur France Inter.
Dans ma chambre le soir, je repasse mes souvenirs en photo. Où les hivers se croisent, m'ont laissé des kilos sur le dos. J'ai souvent laissé faire le temps, mais rien ne changeait. À grands pas de poussière, je cherchais un endroit où aller. Avril, lorsque l'hiver s'éloigne, souvenir qui jamais ne s'efface. Avril, une lettre, un regard.
C'était Avril de Cipierre dans le temps d'un bivouac sur France Inter.
Je me souviens du premier cerisier en fleurs. C'est un des moments les plus importants de l'année, Sakura, en avril. Ça peut être la première semaine d'avril, ça peut être un peu plus tôt ou un peu plus tard. À la fin d'une soirée, un silence absolu dans Kyoto, les rues sombres, et mon premier cerisier, c'était comme si une neige magique avait choisi de tomber là, sur cet arbre-là et pas ailleurs, parce que l'arbre était blanc comme s'il avait neigé. Et à la différence d'une neige qui pèse sur les branches, qui est lourde, on a l'impression que les fleurs de cerisier tirent l'arbre vers le ciel et vers la nuit. Le premier matin, les Japonais font un détour sur le chemin du travail pour voir les premiers arbres en fleurs. Et alors, ça dure très peu de temps, hein. Donc c'est la plus belle fête, c'est la plus grande fête, mais c'est une fête sans organisation, c'est une fête sans bruit. On se pose simplement sous les arbres et on voit des Japonais soit en groupe avec du saké qui pique-niquent sous les arbres dans les parcs, ou alors seuls. Et ça continue la nuit. Un soir, je rentrais très tard et je vois un Japonais seul sous un cerisier en fleurs et on produit des petits bruits. C'est tellement beau. Oh, soi, soi, c'est magnifique. Comme c'est joli, les gens font ça tout seuls sous les arbres.
L'écrivain voyageur Antonin Potoski décrivant les cerisiers en fleurs à Kyoto sur France Culture dans l'émission Carnet Nomade en 2013. Muriel Barbery, c'est un moment important, cette période des cerisiers ou des pruniers en fleurs. Dans votre ouvrage, vous parlez des pruniers en fleurs à Kyoto.
Oui, il y a trois grands événements végétaux dans le calendrier japonais. Il y a les pruniers qui commencent à la sortie de l'hiver, même certains un peu plus tôt. Il y a les cerisiers en avril-mai, suivant le point du Japon où on se trouve, du nord au sud. Et puis il y a les érables en novembre, le flambement des érables, qui personnellement est le moment que je préfère. Mais les pruniers, c'est quand même extraordinaire, parce que ce ne sont pas nos pruniers à nous. Ils ne produisent pas de fruits, mais en revanche, ils produisent un parfum extraordinaire, très très capiteux, très prenant, très fort, dont un parfumeur un jour m'a dit qu'il était infixable et que c'était la raison pour laquelle, en dépit de son charme, on ne pouvait pas l'utiliser en parfumerie. Et donc, les pruniers, c'est extraordinaire. À Kyoto, il y a un temple qui s'appelle Kitano Tenmangu et devant lequel a été planté, de temps immémoriaux, je ne sais pas depuis quand, un carré de 2000 pruniers. Et lorsqu'il commence à fleurir, toute la ville y va. Il y a des grands bancs installés sur lesquels on peut s'asseoir pour prendre un thé parfumé aux fleurs de prunier. Et puis des petites galettes de riz, elles aussi, parfumées à la poudre de prune. Et en s'extasiant devant le renouvellement des saisons et la merveille de cette floraison dans le froid de l'hiver.
Et il paraît que c'est vraiment, alors c'est le sujet de discussion, comme on pourrait parler de la pluie et du beau temps, là-bas tout le monde considère, et puis surtout avec la crainte, ces fleurs sont éphémères, on regarde la météo, le vent, la pluie, et on se demande combien de temps ça va durer.
Oui, d'autant qu'aucune floraison ne ressemble à une autre. Il y a des années décevantes, il y a des années magnifiques. Pour les érables, on regarde s'ils rougeoient, on trouve que le rouge est tel, les feuilles se fripent avant que le flamboiement ait eu lieu.
Alors on l'entend, les fleurs ont une place importante dans la culture japonaise. Elles sont aussi centrales dans votre roman. Chacun des 12 chapitres a un titre qui évoque un arbre ou une fleur. Tu rencontreras les azalées, le monde est comme un cerisier ou encore un camélia mouillé de ses larmes. Et puis dans votre ouvrage, chaque chapitre s'ouvre avec une petite parabole.
Dans la Chine des Song du Nord, quand poésie, peinture et calligraphie marchaient de concert, nichés comme des joyaux dans le songe des sages anciens, on aimait particulièrement à représenter et à mettre en vers les paysages et les fleurs. Or, l'un des plus grands peintres de paysages de cette ère avait une petite fille qui le priait chaque jour de lui dessiner un camélia. Une décennie durant, elle intercéda pour sa fleur. À 15 ans, elle mourut dans la nuit d'une affection fulgurante. Au petit jour, Fan Quan peignit un camélia mouillé de ses larmes et calligraphia au-dessous un poème de pétales envolés. Enfin, contemplant le rouleau encore humide, il vit avec effroi que c'était sa plus belle œuvre.
Ces paraboles sont vraiment, en tout cas moi je les ai lus comme ça, des petits bonbons avant chaque chapitre, avec des messages subliminaux, on se demande ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut conclure. Moi je pensais que c'était des vrais contes japonais ou chinois, et vous m'avez dit, mais non, je les ai tous inventés.
Oui, j'ai tout inventé. Alors vous n'êtes pas le seul, puisque les lecteurs que je rencontre me disent la même chose, qu'ils ont été heureux de lire les passages du folklore japonais ou chinois, puisqu'il est question aussi de personnages chinois. Non, j'ai absolument tout inventé. Je n'ai pas de connaissances approfondies du zen, mais j'aime l'idée de ces récits paradoxaux où se met en abîme l'ambiguïté et l'ambivalence de l'existence et où les contraires s'affrontent pour produire une sagesse qui probablement va au-delà. Alors pour la petite parabole du camélia, elle fait partie du projet que j'avais de faire que Rose se confronte à tout un tas de risques pour enfin vivre et éclore, le risque de souffrir, le risque de donner, et là c'est le cas. Elle se demande souvent dans le roman si on peut donner quand on n'a pas reçu, et le parcours qu'elle fait va l'amener à comprendre que non seulement elle le peut, mais qu'elle le doit. Mais l'idée principale, c'était que ces paraboles servent la quête de l'héroïne, et puis qu'elles mettent en scène des fleurs. Je comprends pourquoi les Japonais aiment tant la fleur, parce qu'elle est la confluence parfaite de la nature et de l'art.
Alors, votre roman ne parle pas que de beauté. Hein. Vous parlez aussi, vous nous en avez dit quelques mots en introduction, de la laideur de certaines parties de Kyoto. Et puis, vous dites aussi, au détour d'une phrase, le Japon est un beau bordel. Alors, il faut nous expliquer ça, parce que pendant toute cette émission, on a parlé de la méticulosité, de l'épure du japonais. C'est aussi parfois un beau bordel, le Japon.
Alors, chez les Japonais que je connais, c'est très, très bordélique. Moi, j'imaginais que ça ressemblerait aux intérieurs des films d'Ozu, avec des tatamis sur lesquels il y aurait juste une table à quai. Mais non, c'est très bordélique et très chaotique.
Et au Japon, et c'est aussi le cas dans votre roman, Muriel Barbery, on ne boit pas que du thé.
Dans son, leur deuxième bouteille de shochu à côté vont être frais.
Qu'est-ce que c'est en fait le shochu?
C'est d'alcool de riz mais distillé. Le saké c'est fermenté. Le shochu on en fait avec, à partir de pommes de terre ou à partir de riz, ça dépend. Le meilleur c'est le pomme de terre, donc c'est distillé. Et c'est fort, à 45 degrés. Alors ça se boit en long drink. Avec du thé, de l'eau chaude, avec des prunes confites, avec du jus de pamplemousse.
Le saké déborde.
On entend l'appel de ceux qui prennent du bon des donuts.
Ce sont des ambiances qui vous rappellent des souvenirs, Muriel Barbery.
Oui, plein. Alors, je ne savais pas qu'on mettait du jus de pamplemousse dans le shochu. C'est pas très très bon, hein, l'alcool de patate distillée. Enfin, j'en ai rarement bu du très bon. Je préfère de moi le saké. Ce qu'il dit à la fin, le saké déborde, c'est une tradition dans certains restaurants. On vous apporte la tasse ou le verre dans une petite coupelle. Et on verse jusqu'à ce que le saké déborde de la tasse jusque dans la coupelle. Donc il y a une double ration de saké avec un double plaisir.
Et vos personnages, régulièrement, boivent alors de la bière, du saké. Oui. Ils sont parfois complètement ivres. Il y a un japonais très attachant, un vieux japonais, un potier, qui dit des vérités incroyables, mais sur un ton un peu de pochetron. Mais ça n'empêche que c'est souvent pertinent ce qu'il dit. C'est une réalité. On boit beaucoup au Japon ?
On boit énormément au Japon. On mange aussi beaucoup. On aime beaucoup manger. C'est une cuisine extraordinaire dont toute la diversité ne nous est pas encore totalement parvenue. Probablement parce qu'il y a des choses trop étranges qui seraient peu adaptables au goût européen, mais c'est d'une diversité infinie. Et puis, les Japonais boivent beaucoup. Alors, la plupart d'entre eux n'ont pas l'enzyme qui permet de métaboliser les molécules d'alcool, ce qui fait qu'ils sont sous et malades très très vite, mais je n'ai jamais vu que ça les empêchait de... Ça les empêchait de boire.
Oui. Alors votre héroïne, Rose d'ailleurs, elle aussi est parfois ivre. Ce parcours initiatique à travers le Japon va la métamorphoser complètement. Dans votre cas, vous, Muriel Barbery, cette rencontre avec le Japon, vous diriez que ça vous a transformé ou c'est rentré en résonance avec celle que vous étiez ?
Oui, je pense que ça m'a transformé. Ça a transformé mon regard à jamais. Encore une fois, pas avec le sentiment d'une grande familiarité. L'étrangeté s'accroît même avec le temps, mais comme on est métamorphosé dans l'amour, quand la rencontre avec quelqu'un ou quelque chose d'autre vous bouleverse votre regard et votre appréhension du monde.
Merci Muriel Barbery pour cette escapade au Japon et dans les jardins et les temples de Kyoto. Je rappelle le titre de votre dernier roman, sublime, Une rose seule aux éditions Actes Sud. Un grand merci à vous.
C'est moi.
Coquelicots, faisans, châtaigniers, mais aussi frelons asiatiques, si toutes ces espèces n'occupent pas la même place dans notre cœur, elles ont tout en commun d'avoir fait un long voyage avant de s'installer chez nous. Dans un instant, nous allons nous intéresser à ces animaux et ces plantes venues d'ailleurs avec le passionné de nature François Lasserre.
California and so will, and I- with that woman by my side. I never had a willing hand, and I never had a plan. But I'm glad I found you here. But I'm glad I've got you here. But I never had a name, and I never felt the same.
C'était London Grammar de Californian Soil et la programmation musicale du Temps d'un Bivouac est signée Muriel Perret.
Le Temps d'un Bivouac. Daniel Fievé sur France Inter.
Bonjour François Lasserre.
Bonjour Daniel.
Entomologiste, fervent défenseur de la nature, vous venez de publier « Beau d'ailleurs, ces espèces exotiques qui nous entourent » aux éditions Belin. Alors avec ce livre, vous nous invitez à nous questionner sur le regard que nous portons sur les espèces animales et végétales qui nous entourent. Alors il y a celles que nous considérons comme chez elles, faisant partie de la biodiversité locale, et puis celles que nous considérons comme exotiques et invasives. Or parmi les espèces que nous considérons comme chez elles, il y a beaucoup d'espèces anciennement exotiques. Et c'est toute l'originalité de votre ouvrage, c'est de mettre côte à côte des espèces que nous aimons parce qu'elles nous environnent depuis suffisamment longtemps pour que nous les ayons adoptées, et des espèces que nous aimons un peu moins, comme les frelons asiatiques, par exemple. On peut prendre un exemple d'espèce venue de loin et que l'on a complètement adoptée, c'est le chat, François Lasserre.
Alors complètement, alors lui c'est vraiment une volonté de notre part, c'est vraiment de la domestication, mais les chats, leurs ancêtres, donc tous les chats qui sont sur nos genoux, leurs ancêtres venaient des déserts et des savanes d'Afrique et d'Arabie, donc ce sont des espèces exotiques qui n'étaient pas originaires d'Europe, puisque c'est ça la définition, être exotique c'est... Donc, quand l'aire de répartition n'est pas celle qui nous environne.
Alors, les migrations d'espèces dues aux humains concernent aussi la faune sauvage, le lapin de Garenne, par exemple. Alors, vous le dites dans votre ouvrage, l'une des plus grandes migrations d'animaux sauvages dues aux humains, en parlant du lapin de Garenne.
Exactement, on en a implanté absolument partout dans le monde, et ils se sont très bien adaptés, un peu partout. Alors, il n'est pas à proprement parler exotique, parce qu'il est un peu originaire d'Europe.
Ouais.
Il est originaire de la péninsule issue ibérique. Mais c'est nous qui l'avons introduit en France et dans le nord de l'Europe. Et donc, d'une certaine façon, il vient d'ailleurs. Mmh. Il y a plein de bêtes comme ça qu'on a installées. Et quand c'est nous qui avons décidé de l'implanter, ben, ça passe toujours un peu mieux que quand ils viennent spontanément ou sans qu'on en ait, sans qu'on l'ait voulu.
Oui, parce que des fois, on est responsable de l'implantation, mais on l'a pas fait exprès. Pour revenir au lapin de Garenne, en Australie, vous remontez toute l'histoire. Au départ, c'est 24 lapins qui sont apportés par des humains en Australie. Et à l'arrivée, aujourd'hui, on compte plusieurs centaines de millions de lapins, d'où l'expression se reproduire comme des lapins.
Comme des lapins. Alors, ces chiffres peuvent vraiment nous inquiéter. En revanche, quand on les voit comme ça, bon, au départ, c'était quand même une volonté de notre part, mais les espèces qui arrivent d'ailleurs, il y en a très peu finalement qui s'implantent. Mmh. Il y en a vraiment très très peu, parce que tous les ans, avec le commerce international et le commerce qu'on fait depuis la nuit des temps entre êtres humains, on installe des bêtes qui viennent d'ailleurs, ou on en fait venir, mais il y en a très très peu qui s'installent, c'est toujours des anecdotes en fait, mais évidemment on a une propension forte à ne parler que des anecdotes.
Et dans la liste des espèces courantes chez nous aujourd'hui et qui ont voyagé, il y a aussi des végétaux. Vous parlez notamment du châtaignier qui vient pas très très loin, qui vient d'Europe. On se situe quand pour l'arrivée des châtaigniers en France ?
Alors, il y aurait eu des petites poches de châtaigniers qui seraient restées en France, c'est toujours à l'étude encore, après la glaciation, mais sinon ceux qu'on voit le plus en France seraient venus avec les Grecs et surtout les Romains. Et c'est vraiment un arbre que l'on plantait pour avoir les châtaignes qui servaient de farine. On appelait ça l'arbre à pain. Et moi, qui me suis baladé des années dans les Cévennes en pensant que c'était un paysage absolument sauvage et vraiment...
Authentique
et tout, en fait, c'est planté par les humains.
C'est planté par les humains et ça viendrait donc de Grèce, hein.
De Grèce ou d'Italie plus particulièrement, par les Romains.
Et le coquelicot aussi symbole de nos campagnes, qu'on aime tant voir barioler les paysages. Nous y sommes très attachés et finalement, ils viennent aussi d'assez loin, ces coquelicots.
Alors, ils viennent de la partie orientale de la Méditerranée. Ce sont des plantes proches orientales, donc d'Asie, en quelque sorte, et qui sont venus, alors là, sans vraiment qu'on le veuille, c'est plutôt venu au moment où on a commencé l'agriculture, dans la terre ou dans tous ces végétaux que l'on transportait, il y avait des graines de coquelicots, parce qu'ils en font par millions, et du coup, ça s'est implanté petit à petit, sans vraiment qu'on le veuille, même si quand même, dans leur pays d'origine, ils sont utilisés en pharmacopée, et notamment, on dit que ça peut apaiser, par exemple, pour le sommeil.
Et puis alors, j'ai appris du coup l'origine du mot coquelicot, du nom des coquelicots.
Quand vous regardez un coquelicot, c'est vrai qu'avec un peu d'imagination, pensez que ça ressemble à la crête d'un coq, et coquelicot, ce serait l'équivalent de l'onomatopée du chant du coq.
Cocorico.
Cocorico.
Ça vient de cocorico. Ça explique pourquoi on y est si attaché à ces petits coquelicots. Et puis on apprend aussi au détour de vos explications que nous les voyons rouges, mais que les insectes, eux, ne les voient pas du tout rouges. Ils les voient noirs, alors ces coquelicots.
Alors une partie des pollinisateurs ne voient pas le rouge, notamment les abeilles, qu'elles soient sauvages ou domestiques. Et du coup, le rouge n'est pas repéré. Donc ils sont noirs. En revanche, les insectes voient quand même dans l'ultraviolet. Et il y a des reflets d'ultraviolet sur les pétales, donc ils arrivent quand même à situer le coquelicot et à pouvoir aller là où la fleur lui indique qu'il y a du nectar.
Et voilà comment l'entomologiste que vous êtes retombe sur ses pattes. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'OPI, l'Office pour les insectes et leur environnement. Et d'ailleurs, dans votre ouvrage, on croise des insectes aimés et mal aimés. On parle des abeilles, mais on parle aussi, vous parlez, du frelon asiatique. Alors voilà un exemple d'espèce exotique, absolument mal aimée, catégorisée comme envahissante, invasive.
Tout à fait. Après nous, ça pourrait être l'espèce, c'est vraiment typique de l'espèce de la EEE, l'espèce exotique envahissante, c'est-à-dire elle arrive d'ailleurs... Elle se naturalise, c'est-à-dire qu'elle se reproduit très bien et elle étend son territoire de façon assez rapide. Et c'est vraiment le cas du frelon asiatique. Et ces imbéciles de frelons, si je puis me permettre, se sont attaqués au seul insecte qui a un syndicat, l'abeille domestique. Donc c'est une catastrophe pour lui. Il venait de Chine, il a passé la frontière sans papier. Et il porte un nom dont on a peur, les frelons. Alors d'une certaine façon, il a presque réhabilité le frelon d'Europe parce que lui, enfin il est chez nous. Et du coup, on se rend bien compte que les frelons sont des insectes inoffensifs et craintifs. Et du coup, on s'en rend d'autant plus compte qu'il y aurait un autre... Voilà. Mais on n'y peut rien, ils sont installés. Donc, on va changer notre mode d'apiculture. Bien sûr, ça nous demande de changer. Mais surtout, on n'y peut rien, ils sont installés, ça y est. Donc, réjouissons-nous, nous avons désormais deux espèces de frelons, ouais, alors qu'on n'en avait qu'une.
Et c'est là que, je pense, vous ferez réagir des auditeurs. C'est que, sur certaines espèces, on n'a pas envie de se réjouir. Alors, c'est vrai que ces frelons asiatiques, s'ils s'étaient attaqués aux moustiques, on les verrait de façon beaucoup plus sympathique. Mais il se trouve qu'ils s'en prennent aux abeilles. Et on se dit, elles n'avaient pas besoin de ça pour aller mal. Donc, on aimerait se débarrasser du frelon asiatique. Et là, vous prenez leur défense.
Exactement, parce que ce que je montre avec ce livre, c'est qu'on a chacun notre vision de ce que devrait être la nature ou de ce qu'on a envie qu'elle soit. Qu'on soit chasseur, protecteur de la nature, citoyen lambda sans aucune connaissance, on a une vision subjective du monde. Et donc, parfois, je rappelle que quand on est perruche à collier, c'est plutôt sympa d'être perruche à collier, parce que c'est pour ça qu'elle s'implante aussi bien en Europe. Ce sont des espèces de perruches, comme un peu des perroquets verts qu'on voit dans beaucoup de villes, dans beaucoup de grandes villes maintenant. Et là, les gens, ils ont du mal à leur taper dessus ou à vouloir les tuer. Du coup, elles sont plutôt nourries. Et c'est en partie pour ça qu'elles s'installent aussi bien dans nos villes. Alors qu'en revanche, quand on s'appelle frelon et qu'on s'attaque à notre bien, le miel, alors là, c'est plus du tout la même histoire. Et du coup, je montre que c'est normal d'être subjectif, mais c'est bien de le savoir. Et donc, de dire « j'aime les insectes, mais l'abeille, oui, mais pas le frelon », c'est un peu une drôle de façon d'aimer les insectes. Ou « j'aime la nature, j'aime les oiseaux un peu rares et uniques en France, en revanche, la perruque et le chacolier, je l'aime pas trop ». Ou « l'ibis sacré du Nil, j'ai plus envie de le voir dans mon coin ». C'est très subjectif et interrogeons-nous là-dessus.
Et qu'est-ce que vous dites pour l'ambroisie, cette plante, elle aussi qualifiée d'envahissante et qui suscite pas mal d'allergies?
Alors, j'ai voulu aussi, dans ce livre, j'ai voulu essayer d'équilibrer les choses. Quand il y a une bête qu'on aime bien, je rappelais qu'elle pouvait avoir des inconvénients, par exemple les coquelicots. Il y a quelques inconvénients à avoir des coquelicots.
C'est quoi les inconvénients pour les coquelicots?
C'est un peu gênant parce que c'est une espèce dite, qu'on appelait avant une mauvaise herbe, qui s'installe. Donc, si vous élevez du blé et qu'il y a plein de coquelicots dans votre blé, ça devient plus trop du blé. Donc, c'est embêtant pour certains agriculteurs.
Pour les chats, vous dites, les chiffres sont absolument astronomiques. Pour les chats, vous dites que rien qu'aux États-Unis, ça a été estimé à plus d'un milliard, entre 1 milliard et 3 milliards, le nombre d'oiseaux tués chaque année par les chats.
Voilà, les chats sont les plus grands tueurs d'espèces protégées, quasiment dans le monde, ou en tout cas en France aussi.
Comme quoi, ceux qui nous paraissent sympathiques ne le sont pas forcément
pas à tous
les égards.
Ou alors, vraiment en avoir conscience. Cette espèce est exotique, on l'a fait venir jusque chez nous. Quand elle part dans les jardins, elle tue un nombre incroyable d'oiseaux protégés, ou de reptiles protégés, ou de serpents. Ouais. Et là, ça, on ferme les yeux, voyez. Là, on ferme les yeux. En revanche, quand on l'a un peu dans le nez, du coup, là, on ferme moins les yeux.
Alors, pour l'ambroisie, comment vous la défendez, cette ambroisie qui provoque ces allergies?
L'ambroisie, j'avais pas envie de la mettre parce que tout le monde la connaît comme une plante un peu allergisante à cause de son pollen. En revanche, je la mets quand même pour montrer qu'effectivement, de temps en temps, il y a quelques espèces qui arrivent d'ailleurs qui nous embêtent un peu. Mais je rappelle aussi qu'il y a que environ 10% de la population qui serait allergique à l'ambroisie.
Bon, c'est déjà quand même pas mal pour ces 10%.
Oui, mais c'est plus ou moins allergique, c'est plus ou moins, que c'est surtout en Rhône-Alpes qu'on la surveille et qu'effectivement, l'État a mis un site internet pour la surveiller. Mais je montre que souvent, on focalise sur ces anecdotes, mais en fait, dans l'ensemble, la plupart de ces espèces et de ces individus qui nous entourent apportent de la vie, ne nous embêtent pas tant que ça, et surtout, ils peuvent nous embêter, mais comme des locaux, entre guillemets, peuvent nous embêter aussi, bien sûr. C'est pas parce que vous êtes exotique que vous êtes forcément plus embêtant.
En tout cas, ça nous interroge sur notre rapport à la nature, aux autres espèces, sur notre façon de déterminer qui ont le droit de citer, qui n'a pas le droit d'être là, qui sont les bons, qui sont les méchants. Un grand merci à vous, François Lasserre. Je rappelle le titre de votre livre, Beau d'ailleurs, aux éditions Belin, avec les très belles photos du photographe animalier Cyril Ruosseau. Un grand merci à vous.
Merci Daniel.
Pour réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast, rendez-vous sur franceinter.fr. Vous pouvez aussi nous envoyer un message sur cette page ou sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.